arrivée, vous êtes installée, et il dépend que de vous de choisir à suivre. Ça fait partie des premières minutes, des premiers quarts d'heure du Café Philosophie. Alors aujourd'hui, comme c'est un Café Philo de démonstration, le thème a été choisi et le thème est...
Sur la question du don, donc, savoir si le don est le signe ou non de notre humanité. On a choisi ce thème au sein de l'association.
Parce que le don est le signe de notre humanité.
On a choisi cette thématique par rapport à la thématique de la journée, entre en fait, donc l'investissement de chacune et de chacun dans des associations diverses et variées. Et puis parce que je pense que c'est une thématique qui est quand même malgré tout centrale, même par rapport à des enjeux contemporains, qui sont ceux de la solidarité, qui sont ceux de l'entraide, qui sont ceux de... On essaie de se servir dessus, pour essayer de faire face aux différentes crises que nous avons collectivement à vivre et à surmonter. On se présente peut-être rapidement pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Laurence.
Donc, moi, je suis Laurence Lacroix et je suis professeure de philosophie au lycée Voltaire à Orléans-la-Source.
Et Nicolas Déré, professeur de philosophie également au lycée Jean Zay à Orléans. Le lycée Jean Zay, donc, sera le lieu d'accueil des différentes manifestations cette année, aussi bien des cafés philo qui ont lieu une fois par mois. Vous avez normalement le calendrier sur le document qu'on vous a remis au stand, que des trois conférences qui sont organisées, la première au mois d'octobre, si ma mémoire est bonne. C'est le lycée Jean Zay qui nous accueille gracieusement, dans une salle relativement confortable, très confortable.
Alors là, vous avez beaucoup de chance parce que vous allez tous les deux pour cette animation. En règle générale, les cafés philo sont animés soit par Nicolas, soit par moi, ce qui est 1 sur 2. Donc le 20 septembre, c'est Nicolas qui commencera à animer les cafés philo. Et moi, je poursuivrai donc sur le café philo du 18 octobre. Voilà, et puis ça tourne. L'idée, c'était aussi de mettre en place une parité. Voilà, donc la philosophie se fait aussi bien que l'idée était là. Donc pour commencer, le don est-il signe de notre humanité? Donc est-ce que c'est déjà un thème qui vous parle, qui vous intéresse? Est-ce que la question fait sens? Qu'est-ce que vous avez à en dire déjà sur une telle... belle interrogation. Moi, j'ai presque envie de dire, le don est-il nécessaire à notre humanité?
Non, parce que, faut savoir ce que ça t'a fait donner, parce que ça dépend si le don est forcé, il n'y a aucun intérêt. Il n'est pas porteur. Et puis, en fait, nous tous, on est don. On est arrivé sur Terre, on est déjà un don de fait. Donc, ensuite, c'est... les choses qui sont tout seules, de toute façon on donne tout, mais certaines personnes, il y a la version un peu morale du don, mais ça c'est fou.
Pardonnez-moi, si vous pouvez parler un petit peu plus fort, parce qu'on n'a pas de trompette de salle,
on n'a aucun micro.
Alors habituellement on a des micros, pour celles et ceux qui ne connaissent pas qu'il y a des philos.
Comment je me vois mal circuler avec l'aménagement du
monde. Habituellement on a plusieurs micros, on a un micro pour les animateurs. Un micro qui circule, deux micros même qui circulent dans la salle pour que chacune puisse vraiment s'entendre. Là voilà, on va faire avec les moyens du bord, on va essayer de parler un peu plus fort. Effectivement, c'est pas forcément optimal.
Donc l'idée serait que parler du don, c'est vaste, c'est un terme général, et qu'à la limite, certaines formes de dons, lesquelles on n'en sait rien encore, il va falloir qu'on réfléchisse dessus, peuvent être signe de notre humanité. Toute forme de don ne le représente pas nécessairement, ne l'est pas. Ouais. Il peut y avoir des dons forcés, c'était ça. Hein.
C'est plus un don.
Alors, est-ce qu'un don forcé reste un don?
Moi, je me pose aussi la question du sens de l'humanité qu'on donne. Parce que l'humanité, c'est toutes les manifestations des humains, quelles qu'elles soient. Donc, c'est aussi de la violence, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on connaît dans la vie, le bien, le mal, tout ça. Ou l'humanité au sens positif du terme, ce qui est bien, bienveillant, etc. Tout dépend effectivement de quoi on parle. Puis le don, effectivement, qu'est-ce qu'on parle? Le sens des mots.
Donc, l'humanité pose problème. Est-ce qu'on l'entend en tant qu'espèce humaine?
Oui, la nature humaine.
La nature humaine.
La question à ce moment-là, ça serait est-ce qu'on peut faire du don un critère d'identification de notre humanité? C'est-à-dire que
Non, soit en tant qu'espèce,
soit en tant que
valeur morale. Voilà. Parce que ça pourrait être aussi l'humanité au sens de valeur morale.
Ou est-ce que ne pas donner, ça serait sombrer dans l'inhumanité, à l'inverse.
Oui,
monsieur.
Est-ce que la prolifération des ONG actuellement n'est pas un reflet justement de ce questionnement sur l'humanité ? Il y a un côté récompense à travers les exonérations, enfin, différents systèmes. Et justement, est-ce que il y a encore de l'humanité, ou bien est-ce que vous êtes encouragé?
Le système d'exonération, par exemple, le fait que je puisse
déduire
fiscalement.
Oui. Est-ce qu'il y a encore une notion de don là-dedans? C'est pas de récompense.
C'est un petit peu la question. On en discutait tout à l'heure avec Christophe en aparté, en début d'après-midi. Moi, il me semble que le fait d'inciter fiscalement une personne à donner, par le système de déduction, on peut l'entendre de deux façons, soit de manière optimiste et positive, en disant le fait que 50% de mon nom me revienne sous forme de déduction au terme de ma démarche fiscale, peut m'inciter à donner. Je n'aurais pas donné si je n'avais pas eu cette incitation, et peut m'inciter à donner plus que ce que j'aurais pu donner initialement. Donc on peut très bien dire qu'au contraire, ça encourage le don, ça le renforce, ça l'initie même. A l'inverse, effectivement, on peut avoir une vision peut-être plus essentielle du don, qui consiste à dire qu'un don qui serait soit forcé, ou un don qui serait incité sous la forme d'une incitation égoïste, en disant qu'est-ce que je gagne à donner, je gagne de l'argent que je vais pouvoir récupérer, que ce don-là, donc, qui serait incité, ne serait plus vraiment un don, ne serait déjà pas un don.
Mais c'est pas facile parce que l'être humain est un être de don. En essence.
C'est à mon avis
on donne tous, d'une certaine façon, dans nos vies, on a tous.
Mais le don, c'est pas forcément quelque chose de matériel.
Voilà, c'est ça.
Je pense tout à l'heure, on s'est arrêté, on va écouter de la musique, des gens qui chantaient, et du gospel, et ils nous ont donné du bonheur. Et c'était le signe de leur humanité de nous donner ce bonheur-là, à les écouter. Je ne sais pas.
Oui.
C'est pas forcément matériel. Hein,
oui. On donne de l'intérêt en échange.
C'est donner du bonheur d'une certaine façon pour moi. Et c'est signe de l'humanité des gens qui le donnent et notre humanité d'être capable de le recevoir. Je pense que l'humanité marche dans les deux sens.
Donc déjà, ça voudrait dire que parler exclusivement de don, c'est oublier que tout don se fait en vue soit d'une personne, soit de quelque chose. Donc donner ne peut pas se penser sans le fait de recevoir le don qui est fait.
Me semble-t-il. Voilà.
Du coup, si on ne reçoit pas, parce qu'après tout, on peut vouloir me donner, et moi je peux ne pas vouloir recevoir ce que l'on me donne. Parce que ça se circuite le don.
C'est quand même un don, mais
c'est mal perçu.
Pardonnez-moi, c'est technique, mais on ne peut pas avoir des micros dans cette salle, donc je vous redemande, si vous voulez bien, premièrement de ne pas donner.
C'est
fait, ça. Deuxièmement, si vous voulez bien, je parlerai un petit peu plus fort. Parce que
Non, mais je disais qu'en fait, l'être humain, c'est un être de don, de nature. Et donc ensuite, le fait de donner, pas donner, c'est une question de morale dans une société ou de soi du cœur pour certains. Mais c'est autre chose, à mon avis.
Alors, je pense que le postulat est intéressant. Je veux dire... sommes-nous des êtres de don?
On a peut-être oublié, en fait.
Oui, madame.
Je ne comprends pas cette notion de postulat de départ. Quoi. Que nous sommes des êtres de don. Je réfléchis depuis tout à l'heure si c'est un postulat de départ ou pas. J'en suis pas certaine.
Parce que moi, ce que je me dis, c'est que lorsque je donne, donc quelqu'un d'autre va recevoir, mais si je pousse le raisonnement plus loin, est-ce que je ne donne pas pour recevoir aussi? Et à partir de ce moment-là, est-ce que le don, enfin, si le don, c'est ce que je suis capable de faire avec un acte gratuit, c'est-à-dire sur un mode peut-être désintéressé ou sans attendre de retour, la question est,
est-ce qu'une telle possibilité est justement possible? Est-ce qu'à chaque fois que je donne, je n'attends pas quelque chose? Alors, je vais changer de terme, mais en échange.
Le bon comme échange des idées.
Je n'attends pas, mais je reçois.
Et je reçois, voilà, je donne pour que l'autre reçoive, mais l'air de rien, parce que j'espère qu'un jour, celui à qui j'ai donné et qui a reçu, me donnera à mon tour, et que je recevrai à mon tour, voilà.
Dans les temps qui viennent, il faut apprendre à donner sans retour, puisque c'est ça qui ruine nos sociétés depuis des siècles. Donc il faut changer complètement de mentalité, là, de toute façon. Ça, c'est clair.
Oui, mais est-ce que... Je voulais dire, même sans retour de la personne à qui on donne, si on donne à quelqu'un, on se fait du bien à soi-même si on aime donner. On se fait du bien tout simplement en donnant, quoi. Même si la personne... on n'attend rien d'elle, forcément.
C'est ça, j'ai l'impression qu'on a quand même deux... on prend un terme technique, deux anthropologies, deux visions de l'homme, pour dire les choses plus clairement. Absolument opposées. Alors, est-ce qu'on peut en décider ensuite? Je ne pense pas, je pense que c'est plus s'engager sur l'une ou l'autre. On peut très bien, effectivement, voir l'humain comme un être de don, quelqu'un qu'il faudrait peut-être accentuer, éduquer, éveiller cette disposition au don. Ou à l'inverse, une vision, si on voulait la classer avec un philosophe, ça serait chez Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est fondamentalement égoïste et tous les rapports interhumains sont des rapports intéressés où je ne donne que par un calcul conscient ou inconscient, que tu disais Laurence, pour espérer gagner en retour. Soit gagner sur la fond d'un investissement, soit gagner une reconnaissance, une obligation de l'autre à mon égard, celui à qui je donne étant finalement mon obligé et se sentant dans la position d'un débiteur qui devra, d'une manière ou d'une autre, me rendre à l'appareil. J'invite des amis, et puis, ils vont m'inviter en retour. Vous voyez, c'est ce système de don et contre-don, à partir duquel, finalement, des relations faussement altruistes, c'est une vision très négative, faussement altruistes et fondamentalement égoïstes de l'homme pourraient se révéler. Ou alors, je ne donne que pour me faire plaisir à moi. Gagner une bonne conscience.
Mais ça, c'est pareil. Hein.
Ces personnes qui tout à l'heure nous ont offert un gospel, c'est parce qu'elles ont un intérêt à le faire. Parce qu'elles ont un intérêt à le faire.
Je sais pas si c'est un intérêt, mais
ça fait. Ça leur fait plaisir.
Alors, elles se font plaisir à elles-mêmes, mais en se faisant plaisir à elles. Pourquoi est-ce que le don devrait être quelque chose qui serait dur, être pénible, etc. C'est peut-être aussi se donner du bonheur et en donner aux autres, me semble-t-il.
Ça doit être conditionnel. Oui.
Ce qui est bien dans l'exemple que vous prenez sur le gospel, c'est qu'à un moment donné, il y a un partage. Et là, c'est encore assez... On partage quelque chose. Oui. On donne et on le partage. Et là, c'est autre chose. Là, c'est intéressant. Je trouve qu'autrement, le don est dans une situation un peu déséquilibrée. Il y en a qui donnent au-dessus, enfin, qui a des moyens, qui donnent à quelqu'un qui n'en a pas, quoi. Il y a une situation un peu déséquilibrée.
Ce qui peut être aussi une forme de domination.
Voilà, aussi.
C'est pourquoi, des fois, il est si difficile de recevoir ce que l'on donne. Parce que, du coup, ça nous met dans une obligation de débiteur ou de débitrice. J'ai une dette envers celui qui m'a donné quelque chose. Ce qui fait que donner, ça peut ne pas être simple, parce que c'est un acte où on peut se dessaisir de ce que l'on possède, mais recevoir peut être quelque chose aussi d'extrêmement difficile. Parce que du coup, ça implique d'accepter la relation qui est mise en place. Parce que même si l'autre dit qu'effectivement ça a été fait avec une pure générosité, il n'empêche que les règles de sociabilité demandent à ce que je rende. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une logique d'égalité. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir des dons entre personnes fondamentalement inégales, par exemple d'un point de vue social ?
Oui, des dons de cœur.
Oui, c'est pas facile, hein.
Et de toute façon, quand on reçoit d'un côté, en fait, c'est pas forcément la même personne qui va recevoir. C'est-à-dire qu'on peut recevoir et donner grâce à ça à une autre personne, etc. Il faut absolument se dégager de la notion d'avoir des attentes par rapport à ce qu'on donne, parce que ça, c'est le conflit assuré. Enfin, de toute façon, c'est vraiment une valeur parfois.
Oui, madame.
C'est vrai que sur la question de recevoir, moi, je fais un petit peu l'analogie dans le monde de l'entreprise. Quand on va en déplacement business et quelquefois on a des cadeaux. Et là, en fait, c'est très, aujourd'hui, c'est très codifié. Et finalement, ces cadeaux-là, de temps en temps,
on nous demande justement de ne pas les recevoir, parce que soit ça dépasse un critère qui n'est pas acceptable, alors que pour la personne qui le fait, elle le fait parce qu'on arrive dans son pays et c'est un acte de bienveillance que d'offrir quelque chose, et malgré ça, en fait, il y a des règles, et on peut aller vite à la notion de corruption.
Ouais.
Et de cette part, c'est...
Très vite d'influence.
Voilà.
Parce que, j'ai envie de dire, dans des pays autres, mais je pense que c'est exactement la même chose chez nous, il n'y a pas de contre-don, en fait, il n'y a pas de don sans contre-don. C'est-à-dire, la différence, il me semble, entre le don et l'échange marchand, c'est que l'échange marchand se fait tout de suite. Les choses sont claires, il y a un contrat. À partir du moment où je vends une piscine, par exemple, on me doit de me donner tant d'argent en contrepartie de la piscine qui devient un bien marchand. À la différence du don, très souvent, dans le don, on ne demande pas une réciprocité immédiate, mais à un moment donné, on demande quand même qu'il y ait un retour sur ce qui au départ a été accepté. Parce que accepter ce que l'on me donne, c'est accepter une relation. Et la relation, par définition, elle est duale. Elle ne se fait pas que dans un sens. Et donc, effectivement, dans le commerce, voilà, il y a des obligations de rendre, quoi. Et si on ne rend pas, ça casse le lien social. Donc, du coup, savoir distinguer ce qui en est de la socialité du commerce, c'est devenu aujourd'hui une exigence très forte. Pour est-ce l'éthique est... marchande, pour le travail. Ouais.
Est-ce qu'on n'est pas à la limite du retour sur investissement? C'est-à-dire qu'il y a un don extrêmement téléphoné, qui n'est plus un don, à la limite, dans sa nature. Mais ça pourrait avoir cette coloration même dans un don désintéressé, ce qui est un oxymore à l'envers.
Et la question du coup revient à, lorsque je fais un don que je crois être désintéressé,
que je vis comme tel,
est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce que je suis à ce point désintéressé? J'invite quelqu'un à déjeuner chez moi.
Oui, parce que vous voyez toujours la relation avec le partage.
Oui.
Mais je donne mon sang. J'ai pas de partage de relation de dominé à dominant. Quoi. Je donne mon sang.
Mais est-ce que c'est désintéressé?
Je pense.
Est-ce que je ne donne pas mon sang en me disant je donne pour ceux qui aujourd'hui en ont besoin? Parce que si demain, j'en ai besoin, d'autres donneront pour moi. Ce qui est l'idée de la mutualisation. Dans l'idée de la mutualisation, on aide aujourd'hui ceux qui en ont besoin, parce que dans l'idée même mutuelle, voilà, si demain j'en ai besoin, si, certes c'est inconditionnel, je ne sais pas si j'en aurai besoin, peut-être que j'en aurai jamais besoin, mais il n'empêche que si demain j'en ai besoin, je sais que je pourrai compter sur les autres.
Excusez-moi.
Oui, madame.
Du coup, vous parlez de socialisation. Vous parlez de socialisation, sociabilisation.
Oui.
Moi, je rejoins l'idée de. Il y a des études qui ont montré que des bébés, à la naissance ou jusqu'à 3 ans, quand quelqu'un fait tomber quelque chose, ils ont un élan de contribution. Alors, c'est peut-être pas du don, c'est de la contribution, je ne sais pas quelle distinction. Mais du coup, cet enfant, il n'a pas cette conscience du retour sur investissement ou de l'échange qu'il pourrait y avoir pour lui. Je pense qu'il a toute confiance dans la vie, qu'on va lui donner à manger ce qu'il faut. Et pourtant, il ramasse parce qu'il a cet élan naturellement.
Donc, il y aurait une sorte de nature humaine.
Je ne sais pas. En tout cas, que peut-être cette socialisation, elle vient qu'après, et ces règles et ces échanges commerciaux et autres, c'est parce qu'on a à un moment donné plus confiance que nos besoins vont être nourris. Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une peur qui se crée, et c'est là que peut-être je vais moins donner parce que j'ai peur de ne pas recevoir ou effectivement.
En tout cas, ça tue une certaine spontanéité différente.
Oui.
Alors, oui, En même temps, sur l'enfant, je me poserais une question, c'est-à-dire, est-ce que l'enfant n'est pas très mimétique, c'est-à-dire dans la réaction des bébés, est-ce qu'il y a une intention qui est à l'origine de l'acte? Ça, je ne sais pas trop. Par contre, ce que je me dis, c'est que pour en revenir à la distinction sur humanité, est-ce que par humanité, on parle de valeur morale ou d'espèce humaine? La question que je me pose, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir une humanité en tant qu'espèce humaine, d'accord, sans don? Parce que l'enfant, il a besoin qu'on lui donne à manger. Voilà. C'est-à-dire, si on ne lui donne pas à manger, il meurt. Mais ce qui est vrai pour l'enfant, est très certainement vrai pour nous tous. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'humain, enfin, est-ce que l'humain, c'est pas, est-ce que l'humain est capable de s'auto-suffire? Non, je ne pense pas. Et donc, pour que l'espèce humaine puisse survivre, élaborer, par définition, nous sommes des êtres qui avons besoin d'aide. Et donc, à la fois, on a besoin qu'on nous aide, donc qu'on nous donne, et à la fois, on a besoin d'aider les autres aussi, parce que les autres ne pourraient pas être sans nous. Donc, du coup, ça serait plus peut-être sur ce plan-là que je mettrais le don au cœur même de notre humanité. C'est-à-dire, en tant que nous sommes des êtres de manque, en tant que nous sommes des êtres insuffisants, en tant que nous sommes des êtres où, si nous voulons faire quelque chose, on a besoin de la communauté, on a besoin de la solidarité. Une cathédrale,
elle se fait à plusieurs. Moi, je veux dire, c'est parce qu'on a oublié qu'on était tous un, quelque part. C'est l'inverse. On s'est divisé. Et c'est à ce moment-là que le manque est apparu, parce qu'on a oublié qu'on était tous reliés et tous un, quelque part, dans cette expérience terrestre, en fait.
Oui, mais si on est tous reliés, le lien que je peux établir à l'autre serait le lien du don.
Ah, probablement.
De l'entraide.
Voilà. Ah, oui, probablement, parce que on ne supporterait pas que notre frère à côté souffre, ou quoi que ce soit, ce serait tout le monde, c'est interdit.
Et du reste, est-ce qu'on le supporte? C'est-à-dire, effectivement, la compassion, la pitié, l'empathie. C'est que lorsque je vois un autre, et des fois même que je ne vois pas, mais j'entends à la radio que 10 enfants ont été maltraités et ont été retrouvés dans une cave, quelque chose en moi qui est violenté, qui réagit, enfin, tout de suite. Alors pour le coup, je dirais ce mouvement-là, qui tend à faire que je veux aller soulager la douleur de l'autre. Ouais. Donc oui, et donc c'est peut-être dans ce mouvement-là qui me fait tendre vers l'autre, qui me met en lien avec les autres, que résiderait la dimension peut-être fondatrice de notre humanité du don. Et le problème des sociétés contemporaines, c'est peut-être justement de casser,
diviser ça.
Voilà, ouais. Et donc, du coup, un sentiment de mal-être dans le fait d'être enfermé sur soi, dans l'égoïsme dont tu parlais.
Et l'isolement.
Alors, l'isolement, du coup. Isolé des autres, isolé de ma relation aux autres, parce que les autres, ils peuvent être là, mais si je suis incapable de mettre en place une relation à l'autre, je reste fermée sur moi-même.
Là, ça dépend, si on se rappelle du lien, ça se fait automatiquement, ça peut plus exister.
Oui, monsieur. Oui, est-ce que les 5 religions qui existent dans le monde ont mis le don dans leur partition au même niveau, et si c'est pas au même niveau, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur l'humanité?
Alors, je suis pas historien ni spécialiste des religions. Par contre, sur les religions monothéistes, je crois dans les religions monothéistes, on s'aperçoit assez vite que le don est au cœur des valeurs, même des valeurs, plus que des valeurs, des dogmes religieux.
Vous pourriez rappeler les trois?
La religion juive, la religion chrétienne et la religion musulmane.
Et elle donne un nom particulier à ce don. Elle le nomme charité.
Oui, c'est la charité, c'est l'agapé en grec. L'agapé, c'est l'amour sans... C'est l'amour gratuit, c'est l'amour désintéressé.
Ça vient de charisme.
Voilà. Et quand vous entrez dans les écrits des évangélistes, ou même de saint Paul, il est bien dit que il y a bien 10 commandements, et que le 11e, en fait, c'est le commandement de l'amour, en fait, et qui efface les autres, qui les supplante, au sens où aimez-vous les uns les autres comme vous aimez moi-même, dit le Christ. C'est bien ça, c'est-à-dire que l'amour se suffit à lui-même, le don l'agapé, la charité suffit à elle-même pour fonder une humanité généreuse et solidaire, pour fonder une humanité, vous l'avez dit tout à l'heure, qui soit unie. Dans la religion musulmane, dans les cinq piliers de l'islam, l'un des cinq piliers de l'islam, c'est l'aumône, qui est au même niveau que la prière, ou que la franc-mou, que le pèlerinage à la Mecque, la zakat, disent les musulmans. Et la zakat peut prendre la forme soit d'une aumône individuelle et volontaire, le don que je fais à celui qui est dans le besoin, ici, à mes côtés, et peut prendre la forme, et prend la forme dans les pays où la loi musulmane s'applique, d'un impôt de solidarité, d'un impôt de solidarité, où on va retrancher une partie de la richesse de l'un pour donner à la communauté. Donc, effectivement, il me semble que le discours religieux, en tout cas des trois monothéismes, j'aurais bien du mal à parler de la religion hindouiste,
bouddhiste,
je n'ai pas assez de connaissances en la matière.
Le bouddhisme, c'est presque le don de soi, c'est-à-dire abandonner toute forme même de singularité, enfin, un don total. Quoi.
Et le discours qui nous est...
ce serait donc un début de hiérarchie entre les religions.
Je n'en sais rien, c'est loin de moi cette idée. Ce que je peux dire, c'est que, en tout cas sur la religion chrétienne ou la religion musulmane ou la religion juive, le discours qui est proposé, ou le chemin de vie, c'est plus qu'un discours, le chemin de vie qui nous est proposé, c'est d'abandonner autant que possible la sphère privée, la sphère de l'égoïsme, la sphère de l'appropriation, la sphère de l'intérêt, du calcul, du retour sur investissement, enfin bref, de l'échange. Pour essayer d'aller vers celle de la charité, vers celle d'un abbé Pierre, ou d'une sœur Emmanuel, ou de je ne sais quelle figure religieuse qui nous invite à aller vers ceux qui sont dans besoin, ceux qui sont nécessiteux.
Sauf que le don dans ce sens-là, c'est aussi pour gagner le paradis.
Oui,
c'est le don dans ce sens-là, c'est aussi pour gagner le paradis.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que dans les trois vertus de la religion chrétienne, il y a la foi, il y a l'espérance et il y a la charité. Et que l'une se nourrit des deux autres, effectivement. Le don que je fais à l'autre homme, à l'autre femme, est toujours un don à Dieu. Effectivement, alors est-ce que derrière c'est encore un échange déguisé qui consiste effectivement à faire un calcul ou regarder comme je suis irréprochable, j'ai été un saint toute ma vie, donc maintenant j'attends un retour sur investissement, j'attends ma place à la droite du Seigneur, j'attends ma place au paradis. J'allais dire que ce débat là on ne pourra jamais le trancher puisque on ne peut pas aller juger et jauger des intentions.
Le bouddhisme ne promet pas le paradis, donc c'est peut-être un début de hiérarchie quand même.
Non, mais tout ça, ça part de la division. Et c'est marrant parce qu'il y a des perles, en fait, au niveau des mots. Un individu, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas divisé. Or, pour nous, on le sépare totalement de l'individu d'à côté. Ce qui fait qu'en fait, la réalité de notre humanité, c'est un groupe. Alors, tout notre discours est orienté vers la division. En religion, en morale différente, en idées différentes. C'est dingue, on n'arrête pas de se diviser, en fait.
Oui, c'est une réalité. Les gens, enfin, on ne pense pas forcément pareil, on peut diverger sur plein de sujets.
C'est et on en fait un problème.
Moi,
il me semble que le don, il n'y aurait pas d'humanité, j'inverse, il n'y aurait pas d'humanité sans don ni partage. Parce que les premiers hommes, ils étaient peu nombreux. Il y en a qui chassaient, il y en a qui cueillaient, il y en a qui faisaient des enfants, et pour se sauvegarder, pour que leur humanité vive, pour que les gens ne meurent pas physiquement, il fallait bien qu'ils partagent ce qu'ils avaient, qu'ils donnent la viande, qu'ils donnent la nourriture, qu'ils donnent le lait, qu'ils donnent le... Et sinon, l'humanité mourrait. Si au départ, il n'y avait pas le don, le partage, il n'y avait plus d'humanité.
Ça, il y a les deux, je pense. Il y a ça, mais il y avait aussi sûrement une autre tribu un peu plus loin où ils pouvaient se combattre. Au sein de la propre tribu, il y avait des liens solidaires, solidarité qui permet de survivre. Mais après, il y a aussi des conflits avec d'autres.
Mais à l'intérieur de la tribu disparaissait s'il n'y avait pas le partage.
Ouais.
Et si une tribu disparaît, l'autre à côté peut disparaître, etc.
Et la question que j'ai envie de poser, alors, c'est est-ce qu'on doit faire du don un devoir? Est-ce qu'on va penser comme un devoir, comme une obligation
morale inhérent à l'humanité.
C'est un instinct de survie, quoi. Ça,
Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un, on le fait sur une grande fortune qui accumule des millions et des millions et des millions, des milliards, pardon. Est-ce qu'on peut reprocher à une personne ou à un groupe de ne pas donner? Est-ce qu'on peut reprocher, est-ce qu'on peut faire reproche à quelqu'un d'être fondamentalement égoïste, de ne penser qu'à soi ou à ses proches?
On est trop capitaliste, et puis on est trop nombreux. On est trop nombreux.
Il y a des gens qui sont immoraux.
Mais qu'on a perdu le sens de la, du don et de la vie pour vivre. Simplement pour ne pas mourir.
Peut-être dans sa famille, on garde ça quand même dans sa famille, avec ses proches, c'est quand même ça. Dans la société, c'est tellement grand, tellement de monde, c'est plus compliqué.
Tout à fait. Enfin, je pense que sans don, il n'y a plus d'humanité.
Madame,
j'ai l'impression qu'il y a comme différents niveaux de dons. Parce qu'on parlait du don avec de l'interdépendance parce qu'on a besoin de survivre. Et qu'il y a, par exemple, là, il y a des gens qui nous font le don de leur présence. Et sans ces personnes, enfin, là, qu'on est peu à parler. Et que mettre de la conscience sur le fait qu'on est nombreux dans la salle et que tout le monde ne parle pas, c'est pour moi le don d'une présence. Et du coup, ces gens-là, s'ils n'étaient pas là, bah, ça n'aurait pas la même dimension, ça ne donnerait pas la même chose. Et donc, comment chacun de nous, on peut aussi se dire, ok, mais je même en ne faisant rien, je donne, en fait. Et c'est ce que vous disiez.
Mais donc, on écoute aussi.
Voilà, ma présence est déjà une forme de don. Et peut-être qu'effectivement, c'est dans le fait de savoir voir ou recevoir ce qui est que je peux dire, tiens, j'ai eu don de ci ou de ça, et donc on voit plus les choses de la même manière.
C'est une prise de conscience, en fait.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir sur le côté fiscal. Alors, pourquoi?
Excuse-moi, ceux qui ne payent pas d'impôts,
oui.
Tu restes. S'ils donnent, on ne peut pas leur reprocher de ne pas payer moins d'impôts.
Ils ne payent pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi l'État a-t-il mis en place une exonération fiscale pour dons? Pour des ONG, organisations non gouvernementales, qu'on dit, en règle générale, d'intérêt public. Ça m'intéresse beaucoup, ça. D'intérêt public. Et si on revient à la logique...
Ou des partis politiques.
Ou des partis politiques. Oui. Alors là aussi, ça serait peut-être à analyser différemment du coup. Mais si on en revient sur la logique de l'entraide, c'est-à-dire l'humanité en tant qu'espèce ne survit pas si elle est incapable de s'entraider. Il est vrai que l'État-providence a été une invention extraordinaire de ce point de vue-là.
L'État-providence.
Voilà. L'État-providence, c'est-à-dire l'État qui est capable de prendre en charge l'éducation, la sécurité, la santé. Voilà. Mais surtout qui organise, qui structure ce qui nous est nécessaire pour assurer notre survie. Ce qui fait qu'effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que je peux survivre dans le système étatique dans lequel je vis sans avoir à donner. Et pourtant, l'État exonère les dons que nous pouvons faire à des organismes d'intérêt public. Et là, pour moi, la question, c'est pourquoi? Et donc, du coup, ça revient sur la notion du don privé, c'est-à-dire pourquoi, du coup, inciter les individus que nous sommes à donner en notre propre nom, alors même que l'État, à la limite, pourrait se charger de la chose. Très clairement, il semblerait que l'État se désinvestisse d'un certain nombre de centres d'intérêt, ou peut-être, pour le dire encore autrement, et c'est peut-être ça qui m'intéresse, l'État ne peut pas tout faire. Et donc, si l'État ne peut pas tout faire, si le politique ne peut pas assurer l'ensemble, des structures dont nous avons besoin pour survivre, ça veut dire que même dans nos sociétés, le don, effectivement, est fondamental pour en assurer, ou pour assurer soit, le maintien même de la structure étatique dans laquelle on vit, soit notre propre survie en tant qu'humanité. Je reste toujours sur la dimension espèce humaine.
Oui, mais si la société reçoit comme ça, c'est le petit problème de l'État-providence. C'est que du coup, on ne sait plus qui finance pour recevoir, c'est énormément de frustration. Le don, il a besoin d'être nominatif parce que l'être humain a besoin de se voir comme quelqu'un qui donne ou qui reçoit, etc. Et là, c'est totalement anonyme. C'est une espèce de nébuleuse et tout le monde est frustré parce que quelque part, tout le monde est frustré, enfin, c'est la constatation. On est tous frustrés de quelque chose dans cette société avec cette mentalité.
Donc ça veut dire que le don a besoin de mettre en place des relations inter-individuelles.
Il faut que ça l'élève, et ça le rend joyeux. Quoi.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Ce que j'allais dire, c'est que est-ce que ce contre-don, ce don obligé, entre guillemets, ne pourrait pas être considéré par l'individu comme une façon à lui d'infléchir une certaine politique, vu sur le point individuel, c'est complètement irréel, mais ça pourrait être conçu par des groupes pour infléchir des politiques particulières de l'État en les forçant dans un certain dimension.
Oui, un acte citoyen en fait. C'est-à-dire
on pourrait en discuter aussi. Oui.
J'aimerais bien un exemple en tête, j'ai celui-ci, mais peut-être que j'ai tort. Actuellement, il y a beaucoup d'associations qui se montent où il y a une mise en commun, je ne sais pas, d'outils pour réparer la voiture ou même de vêtements ou d'aliments, où on peut aller sans avoir à payer, c'est-à-dire en court-circuitant le circuit de l'échange. Ça serait ça l'idée d'offrir un contre-don à l'État. Enfin, c'est ça, hein, j'ai cru comprendre.
C'est pas tout à fait ça, mais non. Ça va dans le même sens.
D'accord.
Ce que j'avais l'idée, c'était de dire que l'individu se démarque d'une politique générale. C'est ça que je voulais dire. Et c'est complètement illusoire dans la pratique. Mais dans l'idée, c'est quelque chose qui peut-être inciter certains.
Oui, monsieur. Puisque vous avez évoqué le cas des ONG, moi je suis depuis quelques années le fonctionnement des ONG, surtout pour des réfugiés afghans, au Pakistan, en Iran, ou même aujourd'hui. Alors d'abord, je crois que le terme de don, j'ai l'impression que ça risque de dériver un peu plus en Occident dans une société matérialiste. On pense automatiquement à l'aspect financier et matériel plus qu'à l'aspect éthique et moral, quelque part. Tout dépend de quel côté on se situe. Le terme d'humanitaire et humanitaire est quelque chose de sacré. Beaucoup d'ONG qui se disent humanitaires. Vous dites, bon, ils ont des avantages avec l'État. L'État se décharge un peu de ses propres charges pour charger les ONG de faire travailler dans certaines régions du monde par solidarité. Et puis, après, l'humanité, le don qui peut être donnant-donnant, gagnant, ou le don qui est donné, le don qui est pour se donner la conscience tranquille, soi-même. Et pour les croyants, certains croyants peut-être disent, bon, je mériterai peut-être le paradis un jour. Les non-croyants, je ne sais pas, ils ont sûrement d'autres raisons. Et un exemple concret, la situation actuelle, c'est terrible. La sécheresse, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, tout ce qu'on veut, plus une idéologie qui détruit les esprits et les anesthésies et qui est inédit dans l'histoire récente de ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les talibans, à l'Occident? Vous ne reconnaissez pas officiellement, mais vous qui avez du cœur, il y a des femmes, des enfants, de la population qui meurent de faim, de soif, et d'autres, vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites?
Parce que vous avez laissé...
Voilà, une façon d'accuser. Bon, si vraiment vous voulez les aider, mais comment vous allez faire pour vos dents, vous êtes obligé de passer par nous. Et si vous, ils sont très pernicieux et malades, rusés. Et si vous passez par nous, c'est que quelque part,
vous nous reconnaissez.
Vous nous reconnaissez officiellement. Après, vous voyez, l'humanitaire, pour moi, j'ai vu aussi des ONG qui font du travail formidable. Je ne les mets pas tous dans le même sac. Mais d'autres, vous voyez que, par exemple, 90% de leur budget va à leur fonctionnement intérieur. Et puis qu'ils vivent un peu dans certains... Je ne dis pas tous, hein. Donc, c'est discutable. Et l'État, pour terminer, d'une part, il se décharge, mais d'autre part, ça lui permet d'avoir un contact avec le pays indirect, parce qu'ils n'ont pas de représentation officielle. Voilà, donc les dons humanitaires, vous savez, c'est... Et puis, pour terminer, pour moi, le don, bien sûr, comme ça a été plusieurs fois dit, c'est pas, bien sûr, uniquement matériel, financier, hein. C'est aussi donner de son temps, et sans forcément attendre au retour quelque chose, hein. Par contre, là où on arrive à un paradoxe, c'est que moi, depuis que je suis en France, j'entends souvent dans le temps, c'est de l'argent. Bon, est-ce que quand on donne son temps pour une cause noble, est-ce que vraiment on n'attend rien au retour? Je ne sais pas, je me pose des questions.
Votre intervention, ça me fait, enfin, j'aurais deux idées qui me viennent à l'esprit. D'abord, peut-être essayer de distinguer. Peut-être rapide distinction conceptuelle entre la solidarité et la générosité.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que moi, il me semble que la solidarité, c'est un rapport d'intérêt réciproque. Bien compris. J'ai besoin d'eux, tu as besoin d'eux, finalement, chacun a besoin l'un de l'autre. Soyons solidaires, on va se serrer le coude, tu vas me donner ce dont j'ai besoin, tu vas me donner, j'aurai en retour ce dont j'ai besoin, et nous serons solidaires. C'est ça une quête de solidarité. Un syndic, ça fonctionne ainsi, une mutuelle, ça fonctionne ainsi, et peut-être que l'État a pour fonction d'assurer la solidarité au sein d'une communauté, par l'impôt. C'est l'impôt qui n'est pas arrêté. L'impôt est mal nommé, l'impôt est une contribution. Chacun contribue à la prospérité collective, autant que faire se peut dans la mesure de ses moyens. La générosité, à l'inverse, elle relève du don. La solidarité relèverait davantage de l'échange, mais la générosité relèverait du don. Alors un don qui serait idéalement gratuit, désintéressé, sans retour, sans espérance de retour. Et la générosité, me semble-t-il, elle ne relève pas de l'instance politique, de l'État, etc. Elle relève d'une affaire morale, d'une affaire de conscience de chacun d'entre nous. Peut-être d'une mémoire de... d'une enfance qu'on a détournée de sa générosité première, peut-être, ou d'une humanité qu'on a oublié qu'elle était une et unique. Mais la générosité, me semble-t-il, voilà, c'est une affaire de conscience. Elle relève davantage, non pas d'un élan, pour ça tout à l'heure j'introduisais le terme de devoir, d'obligation. Je me dois, en tant qu'humain, d'être généreux envers d'autres vivants, et pas seulement humains d'ailleurs, d'autres vivants végétaux, animaux, non vivants. Des vivants, à qui la vie a été donnée. Parce qu'en fait, on a ce don en partage qui est celui de la vie. Et donc, voilà, à l'État, la solidarité, à l'individu ou à chacun d'entre nous, la générosité. Mais je suis d'accord avec vous qu'ensuite, c'est très pernicieux. L'État ou les pouvoirs publics, pas forcément l'État, vont avoir cette fâcheuse tendance à se décharger de leur mission de solidarité en faisant appel à la générosité de chacun. Les banques alimentaires, les Restaurants du Cœur, les autres banques alimentaires, c'est bien ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu un Coluche et des milliers de bénévoles encore aujourd'hui et de dons aujourd'hui pour permettre à chacune et à chacun d'entre nous d'avoir de quoi mettre quelque chose dans son assiette, qui le ferait? Et l'État est bien content, effectivement, de voilà, une sorte de chantage. Attends, ben, vous n'allez quand même pas laisser ces personnes-là en besoin. Donc voilà, je pense que la sphère politique, elle relève de la solidarité, la sphère morale et individuelle, elle relève de la générosité. Et c'est pour ça, par exemple, que vous parliez tout à l'heure du don du sang. En France, on donne son sang, en France, on donne ses organes, on donne son corps, on donne son sperme, etc. Aux États-Unis d'Amérique, on le vend. On le vend. Et le système de vente de sang est bien plus efficace en termes de collecte que le système est bon. Bah, parce qu'en fait, j'ai un intérêt à donner, à part, excusez-moi, à vendre, j'ai un intérêt à vendre, donc bah, effectivement, j'y vais en fait. J'ai davantage, je vais être incité à y aller. Et il y a bien moins de pénurie de sang qu'il y en a dans un système français. La question c'est, est-ce que j'ai envie de vivre dans une société où on vend son sang plutôt que de le donner?
Oui, mais en même temps, sur les ventes, notamment du sang, on se rend compte que tu crées une prolétarisation des vendeurs. Et du coup, il y a eu tout un problème avec les qualités sanguines. Donc, les gens ne déclarant pas nécessairement qu'ils sont malades, etc. Ça a posé un vrai, vrai problème aux États-Unis. Ça le pose toujours, du reste. Donc, là aussi, est-ce que la vente pallie réellement le don?
Oui, mais je sais pas si je prends un autre exemple. On donne la vie ou on loue son utérus? Or, un système marchand de location d'utérus, donc de gestation pour autrui, notamment avec les femmes ukrainiennes, parce que l'Ukraine est la plaque tournante de la gestation pour autrui, on l'était en France, c'est plus efficace qu'un appel à la générosité de telle ou telle femme.
Encore faut-il qu'on reconnaisse juridiquement la possibilité de donner la vie pour autrui. Il y a ça aussi. C'est-à-dire le don aujourd'hui, le don de ton utérus n'est pas possible.
Oui, ça, c'est un commerce comme il en existe plein qui dépasse. Mais le don, est-ce que ça ne pose pas la question de la peur aussi?
C'est-à-dire
bah, c'est-à-dire que le don donné, à un moment donné, on dit que j'ai peur de donner, de faire croyance, etc.
Ça, bien sûr.
Pour monter vraiment au bel temps, pour donner le temps, on a la réponse. Hein. Donc, du coup, je pense que pour donner de façon la plus pure possible, c'est important. Hein.
Mais pourquoi il y a peur dans le don? Parce que, encore une fois, quand je donne, ce n'est pas simplement l'acte de donner. Ça ne part pas simplement de moi pour aboutir à rien. C'est-à-dire, dans l'acte de don, ce que je donne, encore faut-il qu'il soit reçu. Et donc, si ce n'est pas reçu, le fait même de donner me pose en position de vulnérabilité. Et donc, oui, ça fait peur de donner. Ça me rend vulnérable. Oui.
Je voulais évoquer un aspect. Autrefois, lorsque le bien, le mal, etc., c'était nous, Dieu, qui avait cette mission. Et le jour, on a l'État-providence. Répondre à nos besoins et parfois les dons, l'État, l'intérêt et quand même un petit peu la religion, tout ça est un peu mélangé. C'est difficile, par exemple, dans notre histoire, d'identifier quel était l'intérêt ou pas l'intérêt pour les personnes qui avaient un positionnement social plus élevé, qui étaient en mesure de donner, d'afficher leur... c'était quelque part une reconnaissance pour aller au paradis. Puisque un chrétien, la première vertu du chrétien est la charité, le don sans intérêt, sans contrepartie, sans attente, la charité a été à l'émergence de notre système de protection sociale. C'est parce que les gens qui s'enrichissaient pouvaient donner, faire des dons, etc. Ils servaient à créer des hôpitaux où on enfermait des personnes qui s'est déplacé et qui était potentiellement dangereux pour les autres, qu'on les enfermait dans les hospices. Les hospices, pardonnez-moi, les hospices sont devenus les hôpitaux. Les hôpitaux sont le pivot de notre système de protection sociale, de santé. Donc, moi, je trouve que c'est pas si évident que ça de faire la ligne de partage, d'établir la ligne de partage entre, avec un intérêt, sans intérêt, en attente de ou pas. Que ce soit au niveau de notre histoire ou au niveau de la famille, tout simplement. Parce que quand nous occupons de nos enfants, donnons du temps, du sommeil, parfois un peu, etc.,
est-ce qu'implicitement nous sommes en train de créer une lettre, d'attendre de... Je trouve que c'est une question très intéressante, notre sujet. Je trouve que c'est compliqué.
Nous, les sentiments de l'ingratitude, par exemple, quand on te reproche à quelqu'un son ingratitude, c'est pas un enfant qu'on va qualifier d'ingrat par rapport à ses parents parce qu'il ne va pas leur donner en retour tout ce qu'il a pu recevoir. Effectivement, mais là, ce à quoi tu fais référence, ce à quoi tu fais référence au début, finalement, il me semble que c'est vraiment indécidable. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de sonder les intentions. Savoir finalement qu'est-ce qui anime une personne lorsqu'elle agit comme elle agit, parce qu'elle donne de son temps, de son argent, de sa générosité à autrui. Qu'est-ce qui l'anime réellement? Mais je voudrais dire que même la personne qui donne, non, c'est trop rien. C'est ça tout à l'heure, on disait, mais quand je donne, j'ai vraiment l'impression de. C'est ça, par exemple, le sentiment amoureux. J'aime mon épouse, mon mari, enfin bref, peu importe, j'ai l'impression que je donne sans retour. Mais est-ce vraiment le cas? Je n'en serai rien et personne n'en saura rien.
Ou au moins le retour, c'est je satisfais mon envie de donner. Je satisfais mon besoin de donner.
En fait, ça donne quelque chose d'énorme, mais on n'en a pas encore conscience, ça donne une immense sécurité dans la société. Ça donne une sécurité. Pour les êtres, d'être eux-mêmes, de se libérer de leurs angoisses, etc. Cette notion de don, si elle était, si le don intrinsèque était rétabli tel qu'il a été au début, ça donne une sécurité incroyable. Ça donne, alors que là, on vit dans une insécurité psychologique totale, avec ces notions d'ego, de diviser tout, de comptabiliser, de payer des charges, moi je donne aussi, je donne ça, ça nous met dans une insécurité totale.
Oui, les bonbons se font les bons amis.
Voilà, alors que là, si on est dans ce bon, comme on peut, il n'y a pas besoin de se comparer aux autres, et bien ça donne une sacrée sécurité, parce qu'on sait qu'on va, on peut compter sur cette entrée, et sur cette... parce que c'est vrai pour tout le monde, c'est universel. Et c'est ça qui donne la sécurité, une sécurité profonde, justement. Cet égoïsme qui nous met dans cette insécurité planétaire monstrueuse pour moi, c'est...
Oui, mais je suis pas sûr qu'on puisse dépasser cet égoïsme. Peut-être une vision peut-être un peu
c'est
plus...
C'est une question, ça. Il faut avoir conscience de l'angoisse que ça génère. Une fois qu'on touche du doigt que cet égoïsme qui est à l'origine vraiment de tous les textes, de tout ce qui est discordant sur cette planète, je pense que c'est une autre vie.
Je pense qu'il faut être confronté dans sa chair, dans sa personne. On revient sur la question de la crise climatique. On a vécu un été particulièrement nouveau. Chacun se dit finalement, on a intérêt à se bouger. J'ai intérêt à me bouger. J'ai intérêt à faire évoluer ma façon de vivre, ma façon de consommer, de m'organiser. Mais c'est encore ici davantage la raison, le calcul. Qui fonctionne que d'être finalement dans un élan de il y a le Pakistan qui est sous nous depuis 3 mois et puis qu'est-ce que je fais? Moi je fais rien.
Non, mais c'est plus une question de se sentir beaucoup plus serein parce qu'on sait que tout le monde on est rendu à même et qu'on sait très bien que tout le monde est relié et qu'il y a cette espèce de on peut compter sur tout le monde.
Oui, madame.
J'ai l'impression que.
Allez-y.
J'ai l'impression qu'on est davantage touché par quelque chose que l'on connaît ou qui est plus proche de nous, entre guillemets. En fait, quand ça nous arrive, on sent notre chair. Et en même temps, oui, on a peut-être aussi cette conscience du tout. Mais effectivement, cette conscience du tout, elle va être un moment on va être rattrapé par des peurs là à notre échelle. Et qui fait que du coup, on a moins de disponibilité ou d'élan à pouvoir contribuer à plus large que sa propre échelle. Et qu'en même temps, si on en a les moyens, on va le faire.
Très juste. Monsieur,
juste un exemple concret aussi que une fois que j'avais fait un don, il y a trois décennies, parce que on devait organiser une grande fête de famille avec les cadeaux, les dépenses, etc. Moi, je me suis mis un peu, je me suis proposé, je dis, mais on peut faire une fête plus sobre, plus sereine et moins coûteuse, plutôt qu'à investir ça. Et à l'époque, si vous voulez, mon pays d'origine, qui est la Tunisie, était occupé par les troupes soviétiques. Bon, je me suis dit, bon, je ne vais pas donner à la Croix-Rouge, à Handicap, bon, bien sûr, on peut toujours faire des dons, c'est facile, je fais un chèque et puis je rentre. J'ai dit, non, je voudrais cibler d'abord à qui je pourrais donner dans ce contexte-là. Or, après la recherche où j'ai donné du montant, de mon temps aussi, parce qu'à l'époque je travaillais quand même, j'ai passé beaucoup de temps pour trouver un cible. Et ce cible, je l'ai trouvé. C'était en Afghanistan centrale, où il y avait une fraction de la population qui était atteinte de lèpre, des lépreux. Pas rentable pour le régime en place, parce que les lépreux sont des charges, ni pour la résistance, donc délaissés complètement. Et en plus, c'est la région la plus déshéritée, et un peuplade la plus démunie et la plus exposée à des exactions. Intégriste. Bref, finalement, de fil en aiguille, j'ai trouvé un canot, et puis finalement, je suis tombé sur une Française qui travaillait dans cette région. Je connaissais son mari qui a été assassiné par les satellites. Donc, le canal, je l'ai trouvé, j'ai dit, ça y est, maintenant. Non pas que je me donne la conscience tranquille, mais j'ai trouvé un site. Je suis sûr que ça va servir à quelque chose. Si je dis ça, c'est pour dire que bon, on donne de son temps, bien sûr, c'est important, mais que cibler, c'est vrai que c'est toujours facile de prendre un chèque et puis une Croix-Rouge, et des gens qui ne peuvent pas faire autrement, je comprends aussi. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas non plus donner à la Croix-Rouge ou à l'Handicap international, mais tant qu'on peut, et si possible, de bien cibler, quitte à donner aussi de son temps, et pas seulement l'argent. Voilà. Et puis j'ai eu des retours, mais j'attendais pas les retours forcément. Quelque part, forcément, on a son ego qui quand même ressurgit, mais il faut le calmer et l'utiliser pour ne pas dire que c'est pour moi que je l'ai fait. Non.
Bah, moi, j'aimerais peut-être terminer en revenant sur le rapport aux religions. C'est-à-dire, je crois que assez clairement, ce qui est apparu, c'est que le fondement de l'égoïsme et des fois de notre peur de donner, de notre incapacité à donner, repose sur l'ego. Donc, et il me semble que dans l'ensemble des religions, la leçon de la charité, de la générosité, de l'aumône, du don de soi, en fait, c'est d'apprendre à se décharger de son ego. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Si le bouddhisme nous apprend quelque chose, je veux dire, c'est bien ça. Bouddha ne fait que ça, nous dire, c'est le travail de toute une vie. Est-ce que le discours du Christ est différent? J'en suis pas certaine, etc. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça ne se fait pas facilement. C'est extrêmement difficile. Et c'est la raison pour laquelle, si le don nous est consubstantiel, c'est-à-dire propre à notre espèce, très certainement, il n'y aurait pas d'humanité sans don, c'est-à-dire sans partage, c'est-à-dire sans ce lien qui nous lie les uns aux autres. Il n'empêche que ça doit aussi être un devoir. C'est-à-dire cette difficulté de savoir donner de son temps, cette difficulté de faire taire son ego en disant j'ai donné, mais après tout, est-ce que je n'attends pas la réciprocité, cette difficulté aussi des fois de savoir rester à l'écoute des autres, fait que le don est très certainement un acte qui vient de notre affectivité, mais il n'empêche qu'à un moment donné, la raison doit être là pour nous rappeler qu'il n'y a pas d'humanité sans don, et nous rappeler rationnellement qu'il n'y a pas d'humanité sans don, fait du don un devoir. Tant qu'il y a de l'ego. Et voilà, et c'est bien pour ça que c'est un devoir. Tant qu'il y a de l'ego.
Et bien, ça se rajoute.
Voilà, tout à fait.
Merci.
Merci à vous.
Merci.